enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à Dieu. Notre titre pour aujourd'hui, c'est « Voir Jésus paraître ». Voir Jésus paraître. Nous pouvons trouver un passage dans 1 Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous voyez, ça commence par voyez, voir Jésus paraître. Que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors ma question pour vous ce matin, c'est avez-vous cette espérance en lui? Quelle espérance? De quelle espérance il s'agit là? De devenir semblable à lui alors qu'il paraît. Voir Jésus paraître. Cette parole, elle est double. Beaucoup de passages de la Bible sont doubles, triples ou encore plus. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole de vie, une parole puissante. Pourquoi ? Parce qu'un verset de la Bible peut vous toucher un jour, un autre jour, ça sera quelqu'un d'autre dans un autre endroit. Et puis des fois, des versets nous deviennent habituels. On les connaît tellement bien, on a l'impression qu'ils ne nous font plus d'effet. Et tout à coup, le Saint-Esprit s'en saisit, et à nouveau, cette parole devient vivante, et ça vous fait de nouveau du bien. C'est ça qui nous montre que cette parole est vivante. Et ainsi, ce passage aussi nous parle de l'avènement de Jésus. Et ça, ça sera un bon moment, quand tout œil le verra. N'aurez plus besoin de convaincre votre voisin ou je ne sais, mais tu dois mettre ta confiance en Jésus. Si, je t'assure, il est vivant, il existe, etc. Et vous n'aurez pas besoin de faire ça, parce qu'il sera là et tout œil le verra. Mais en même temps, donc il y a cet avènement, et en même temps il y a une promesse pour nous, où il y a une rencontre avec Jésus. Et en même temps, il y a une promesse pour nous maintenant, qui n'a rien à voir avec l'avènement de Jésus, qui n'a rien à voir avec l'établissement de son royaume messianique, qui est tout simplement quelque chose pour vous, où Jésus paraît dans votre vie. Et il paraît pour que nous soyons semblables à lui. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Comprenez qu'il y a une parole à plusieurs niveaux. Un jour, nous aurons un corps incorruptible. Ça sera bon, ça. Plus de souffrance, plus de douleur, plus de fatigue, plus de rien du tout. On peut traverser les murs, on peut se déplacer, etc. Donc, c'est une réalité. Ce corps spirituel est une réalité. En même temps, nous sommes déjà des êtres spirituels. Et maintenant, nous serons semblables à lui lorsqu'il paraîtra, est aussi une parole pour maintenant. Que lorsque Jésus paraît dans notre vie, lorsqu'il paraît à nos yeux et qu'il développe en nous, nous devenons de plus en plus semblables à lui. Voir Jésus paraître. Nous devons d'abord nous rappeler des paroles qui ont été données dernièrement. Moi, je ne crois pas que nous soyons ici en tant qu'Église pour passer un bon moment le dimanche matin. D'ailleurs, nulle part il est dit dans la Bible que c'est une obligation d'avoir un culte tous les dimanches matin. On pourrait faire totalement différemment si on voulait. Donc, on n'est pas là juste pour avoir notre petit club, on se fait du bien, on est content de se voir, on vit un petit quelque chose ensemble. On a une parole qui nous encourage et puis on repart dans notre train-train. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que nous nous rapprochions tous les jours de plus en plus de lui pour arriver finalement, on pourrait dire, que nous expérimentions quelque chose comme Enoch, qui était tellement proche de Dieu qu'un jour, il n'était plus là. Parce qu'il était tellement attiré par le Seigneur lui-même qu'il a pu expérimenter un enlèvement personnel. Et c'est une réalité biblique. Nous croyons que c'est vrai parce que c'est écrit. Et donc c'est ça la pensée de Dieu. Tous les jours, on découvre de nouvelles choses. Tous les jours, on se rapproche. Vous savez, des fois, je me pose la question en fin de journée. Je me dis, en quoi cette journée a-t-elle vraiment servi pour des choses éternelles, des choses qui servent, des choses qui ont vraiment fait avancer le royaume de Dieu, des choses qui m'ont aidé à vivre plus dans la proximité de Dieu, des choses où j'ai pu me rendre utile aussi au Seigneur, soit par la prière ou par une action. Je me pose cette question parce que j'ai cette notion que je ne suis pas là juste pour avoir du bon temps ou survivre ou profiter des choses de la terre, mais je suis un être céleste. Vous aussi? Vous êtes de la patrie d'en haut? Je ne suis pas un extraterrestre qui suis arrivé maintenant, mais nous sommes citoyens des cieux. C'est une réalité. Pour nous, c'est plus important ce qui se passe et qui a du poids pour l'éternité. Si vous êtes déjà conscient de ça, vous avez déjà franchi une limite. Vous n'êtes plus le chrétien charnel qui se laisse aller totalement à tous ses penchants naturels. Alors, il y a la deuxième étape où vous êtes le chrétien charnel, mais qui se bagarre pour essayer de se sortir de cette façon où on est tout le temps enveloppé par le fardeau et le péché, comme dit Hébreux 12. Ou alors, vous commencez à avoir franchi la ligne. Ça ne veut pas dire que vous êtes déjà parfait, mais vous expérimentez des choses avec Dieu et vous êtes plus conscient des choses célestes que terrestres. Vous êtes appelé à ça et à rien d'autre. Ce qui veut dire que vous avez les pieds bien sur terre, que vous avez toujours besoin de prendre 3 repas par jour, que vous avez toujours besoin de vous reposer la nuit et que vous avez besoin de faire votre travail, mais vous êtes plus conscient de plus en plus de votre esprit. Et vous devez donc à présent réaliser que Dieu a un plan et que ce plan, il est en train de vous le dévoiler. Jour après jour, semaine après semaine, vous venez régulièrement au culte et vous ne recevez pas de la morale, des sermons ou de ce qu'il faut faire ou pas faire. Vous recevez un plan, vous recevez une direction de l'esprit, vous recevez une invitation à marcher le chemin de la foi, le chemin de l'esprit, pour devenir ce que vous êtes. Alors ces paroles, c'est important de se les rappeler. Et il y a eu une parole qui a été donnée, c'était aux environs du mois de fin octobre, par exemple. Il y avait une parole de Dieu concernant notre Église en particulier et concernant un épisode prophétique de la tribu des fils d'Issachar. Quelqu'un se rappelle de ça? Et il nous est dit que cette tribu d'Issachar, quelle était leur particularité? Ils savaient discerner le temps. Alors nous sommes à nouveau appelés, en tant qu'êtres spirituels, à savoir dans quel temps nous vivons. Nous ne vivons pas après Jésus-Christ, nous vivons avant Jésus-Christ, dans l'attente de ce qui va se passer, et non pas dans le souvenir de ce qui a été. On peut se rappeler certaines choses, mais pour nous, ce qui est plus important, c'est ce qui nous attend, ce qui est devant nous. Parce que c'est le meilleur qui est devant nous, heureusement. Si on n'avait pas d'espérance, on serait comme ces gens misérables qui ont vieilli, leur univers se rétrécit de plus en plus, et au bout d'un moment, ils n'ont plus que quelques souvenirs. Et même leurs souvenirs deviennent de moins en moins nombreux et ils ne sont plus capables d'avoir des conversations très étendues et ils se rappellent même des fois ponctuellement plus que de certaines choses, peut-être de grands événements, de leur jeunesse ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment triste de voir ça. Alors que nous pourrions Non pas devenir sénile, ni mourir de toutes sortes de maladies mentales ou être dégénéré, mais juste avant de quitter cette terre, on pourrait avoir une conscience de Dieu, devenir des pères et des mères dans la foi. Et je dis, le corps de Christ aurait besoin de chrétiens mûrs, d'expérience, qui ont marché dans les chemins dont on parle, de la foi, de l'esprit. Où sont-ils, ces vieillards spirituels? Vous en connaissez beaucoup qui ont vraiment de l'expérience de Dieu et qui pourraient dire, voilà, j'ai vécu, comme disaient un moment les gens de la Bible, j'ai marché 40 ans avec Dieu, j'ai manqué de rien. Et de voir que Moïse avait toute sa vigueur et que même sa vue n'était pas affaiblie et plein de choses comme ça. Nous aimerions voir des pères et des mères dans la foi de ce gabarit. Mais s'ils ne sont pas là, si nous n'en avons pas, c'est à nous de les devenir. C'est à nous d'ouvrir le chemin et de montrer aux gens. Voilà la voie qu'il faut prendre. Et quand je dis aux gens, c'est pas constamment tourné vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ceux du peuple de Dieu qui n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Ils sont bloqués, ils sont collés. Mais nous vivons un temps spécial. Pour certains d'entre vous, vous connaissez sans doute ce passage de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste qui était des fois était un sage et des fois un fou. Hein, il disait n'importe quoi. Parce que c'était le fruit de ses réflexions. Alors il disait des choses qui paraissent des fois sages et la contenance n'est pas très grande. Il y a un temps pour tout dans Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc voilà, mais n'importe qui aurait pu dire ça. C'est pas d'une grande sagesse de dire ça. Et il dit simplement, voilà les choses qu'on voit, les choses qu'on peut expérimenter. Seulement, vous vous rendez compte que si d'abord vous ramassez des pierres, ensuite vous jetez des pierres, ça ne mène pas très loin. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de cette façon. Donc, il nous faut la sagesse de Dieu, l'esprit de Dieu pour savoir comment utiliser notre temps. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous ne sommes pas appelés à coudre et à déchirer en même temps. Si je couds un habit, ensuite je déchire l'habit. Puis je recoue l'habit, puis je déchire l'habit. Ça ne mène à rien. Donc il y a des choses différentes qu'il faut jeter et des choses différentes qu'il faut ramasser. Vous comprenez ça? Et nous sommes maintenant interpellés pour dire, pour nous, il y a un temps que nous devons discerner. Quel est ce temps? Moi je dis, ce temps, c'est le temps dans lequel nous venons d'arriver maintenant. C'est le temps de la préparation de l'épouse. Le Seigneur nous a parlé à ce sujet au culte, je crois que c'était la semaine dernière, prépare-toi, mon épouse, à plusieurs reprises. C'est un temps de préparation. Quand quelqu'un prépare un mariage, il ne le prépare pas la veille. Demain, il faudra que tout soit prêt. Les invités, le repas, la robe de la mariée, la cérémonie et tout. C'est pas du jour au lendemain. On ne dit pas, si on se mariait ce soir ou cet après-midi, ce n'est pas possible. Et certaines choses que nous trouvons ridicules dans la vie normale ou habituelle, et nous voulons les appliquer spirituellement. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. La préparation, plus une chose est grande dans l'événement qu'on prépare, plus la préparation doit être grande. D'accord? Si on veut organiser une rencontre de foot entre les jeunes du quartier, c'est différent que de préparer la Coupe du Monde. Hein? Et pourtant, on pourrait dire, mais c'est aussi un match. Mais oui, mais c'est différent. Il est différent pour l'Église d'accueillir Jésus et de devenir l'Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église glorieuse. Comment va-t-elle devenir glorieuse? Alors, il y a plusieurs théories. Il y a la théorie de la baguette magique. Un jour, Dieu va faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Et tout à coup, l'Église sera glorieuse. Nous ne changeons rien dans nos habitudes, mais on a cette conviction qu'un jour, l'Église sera glorieuse. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. L'Église glorieuse est celle qui va accueillir toujours plus de cette gloire de Dieu, de cette présence de Dieu. J'en suis persuadé. C'est comme ça que ça va se faire. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et j'ai toujours aimé cette illustration que quelqu'un avait donnée. C'est comme ceux qui veulent que leur voiture soit vraiment brillante. Alors, ils prennent des produits. Autrefois, on avait des choses du style polish. Alors, une espèce de crème blanche, comme ça, on mettait sur un chiffon. Et puis, on commençait à frotter. Et au début, ça fait pas joli. D'abord, c'est un petit peu terne, c'est un peu crémeux. Mais au bout d'un moment, quand vous frottez après avec un chiffon sec, et alors vous voyez que le soleil qui brille sur la carrosserie, c'est de nouveau joli. Donc il y a les passionnés de ce genre de choses, ils y passent des heures et des heures. Et donc on voit que quand ils frottent un peu ici, un peu là, tout à coup le brillant se manifeste. Mais c'est cette illustration qui est pour notre vie. C'est au fur et à mesure que vous laissez le Seigneur agir par-ci, par-là, dans différents domaines. C'est aussi ce que le Seigneur veut faire quand il veut guérir notre âme, quand il veut restaurer. Il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir toutes sortes de choses. Là encore, ce n'est pas avec un claquement de doigts que tout part. C'est quand il agit. Une fois vous êtes conscient peut-être, mais oui, il y a toujours eu cette crainte dans ma vie. Pour certaines personnes, c'est la crainte de parler en public. Pour d'autres, ça peut être la crainte de qu'est-ce que vont penser les gens ou qu'est-ce qu'ils vont dire. Ou d'autres, ça sera la crainte d'être rejeté. Comment est-ce que je vais être accueilli? Mais si je m'exprime, est-ce qu'on va accepter ce que je vais dire? Toutes sortes de craintes. La crainte de ne pas être aimé, de ne pas être accueilli dans un groupe. C'est particulièrement important. Pour les enfants, ils ont besoin de sentir l'amour des parents. Plus tard, quand ils grandissent un peu, ils veulent faire partie d'une bande de copains. C'est très important pour eux à un certain âge d'être acceptés. C'est pour ça qu'ils s'habillent tous un peu du même style, parce qu'alors on appelle ça les tribus. Hein, ils font partie d'une certaine tribu. Et donc, toutes ces choses existent. Et Dieu agit tantôt ici, tantôt là, alors que vous le laissez faire. Vous n'avez pas besoin de vivre avec vos problèmes, vos craintes et vos complexes jusqu'à la fin de vos jours. Dites pas « je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça ». Peut-être vous ne serez pas appelé à faire certaines choses. Moi, je ne demande pas que chaque personne de l'Église soit un orateur et puisse parler au micro ou que sais-je. Mais nous avons tous des moments où nous pouvons rendre gloire à Dieu, donner un témoignage ou autre chose. Donc, laissez-le agir. Et comprenez en quel temps nous sommes. C'est le temps de laisser Jésus vous transformer pour que vous puissiez devenir semblable à lui. C'est la meilleure chose. Peut-être pour certains, vous ne savez même pas qu'est-ce que ça veut dire, être semblable à lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors demandez-lui. Ce n'est pas seulement des choses extérieures. Devenir semblable à lui, c'est être une personne qui a de la puissance, qui peut guérir les malades, délivrer les gens. Mais c'est davantage encore. Qu'est-ce qui est important? C'est le caractère. C'est que Jésus soit formé en vous. Quelqu'un a dit une fois, on ne reconnaît pas un homme à ses actions, mais à ses réactions. Et quelqu'un a dit, si vous voulez vraiment savoir si quelqu'un est chrétien, dites-lui qu'il ne l'est pas. Il dit à quelqu'un, toi, tu n'es pas un chrétien. Il dit, quoi? Moi, je ne suis pas un chrétien. Alors, vous voyez sa réaction. Et vous pouvez, dans beaucoup de situations, vous pouvez voir comment quelqu'un est-il capable de réagir. Et je sais que nous ne sommes pas parfaits. On a des moments, peut-être, on est fatigué, on a eu une dure journée, peut-être les réactions sont alors accentuer la fatigue et la lassitude font qu'il y a des choses. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que révéler ce qui est au plus profond de nous. Parce que Jésus, lui aussi, avait des journées qui étaient bien remplies. Il avait aussi de la fatigue, il avait aussi travaillé, il avait aussi des pressions. Et où voyons-nous que Jésus ait perdu son sang-froid, comme on dit? Et je ne suis pas d'accord avec l'interprétation que Jésus s'est mis en colère dans le temple pour chasser les vendeurs. Jamais de la vie comme nous l'imaginons. Certains interprètent ce passage à la lumière de leur propre vie en disant bah, « Jésus est comme moi, donc si je perds de temps en temps mon sang-froid, vous voyez, ça peut arriver à tout le monde, même à lui. » Il s'est mis dans une sainte colère, ce qui est totalement différent que de perdre son sang-froid. C'est très important de faire la différence. Bon, on pourrait parler aussi de la colère, parce qu'il y a des sentiments en nous qui peuvent se réveiller, mais tout dépend, est-ce que ces sentiments, ces émotions, à un moment donné, est-ce qu'elles peuvent devenir nuisibles? Est-ce qu'on fait du mal avec? Ou est-ce qu'on peut réagir? Parce que, par exemple, vous pouvez aussi vous irriter de quelque chose parce que vous voyez une injustice. Et donc, dans ce sens, ça peut devenir quelque chose qui est bien. Parce que vous dites, ça c'est injuste, je vais réagir. Mais si, parce que vous voulez réagir, vous commencez à agresser l'agresseur, vous commencez à agir dans le mauvais sens. Il y a un temps pour nous. Et moi, je crois que ce temps, c'est premièrement le temps de la sainteté. On a vu dans 1 Jean 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comment est-ce qu'on peut arriver à la pureté? Puisque c'est une église sans tache ni ride, comment peut-on arriver à la pureté? La pureté, c'est quelque chose de très simple pour nous. On devient pur par la foi. Pas autrement. Elle ne dépend pas de nos actions, mais elle dépend de celui qui a la capacité. La Bible dit très clairement, par exemple, le roi David, quand il avait commis un péché, il priait dans le psaume 51, qu'on appelle le psaume de repentance, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » De temps en temps, il est vrai que les chrétiens, vous pouvez encore prier ça pour demander à Dieu d'agir dans certaines choses qui auraient besoin d'être changées. Mais en réalité, si on considère que le cœur, c'est notre être intérieur, il n'a pas besoin de devenir chaque fois un cœur pur. Vous comprenez? Vous n'avez pas d'abord un cœur de pierre, puis Dieu vous donne un cœur de chair, puis il purifie votre cœur, puis ce cœur devient à nouveau un cœur de pierre, et puis c'est comme une espèce de cycle, j'aimerais l'appeler infernal, parce qu'on s'en sort jamais. Non, vous recevez, vos cœurs sont purifiés par la foi. Ça, c'est une réalité. Mais en même temps, vous vous rendez compte aussi que ce nouvel état d'enfant de Dieu, on l'a lu ensemble, nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et nous le sommes, on s'en rend compte. Ce nouveau statut d'enfant de Dieu nous a donné un cœur pur par la foi. Et en même temps, il nous encourage à marcher dans la pureté, marcher dans la sainteté. Dans la suite, il est dit, quiconque pratique le péché, je suis toujours dans 1 Jean 3, verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si on réalise que Jean-Baptiste avait dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a réellement ôté le péché du monde. Les gens voient des péchés, mais Jésus a ôté le péché du monde. Un seul péché va condamner les gens pour l'éternité. Ce péché, c'est de rejeter Jésus. C'est le seul péché. Ce n'est pas parce qu'ils auront volé ou tué ou fait autre chose. C'est simplement le péché, c'est rater le plan de salut de Dieu. Quand le Saint-Esprit, c'est dans Jean 16, il nous est dit, le Saint-Esprit, c'est un esprit de conviction, vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit n'est pas là. Et je ne crois pas à cela. Il n'est pas là pour tout le temps examiner votre vie et te dire, mon enfant, ça tu n'as pas, ça tu n'aurais pas dû faire, ça tu n'aurais pas dû faire. Certains pensent que c'est comme ça. Il est là pour nous montrer les péchés. Non, la Bible ne le dit pas. Elle dit pour nous convaincre de péché avec la définition de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il est là constamment pour convaincre les gens, dire tu as besoin de Jésus. C'est lui qui peut t'aider en chaque situation. C'est tout. C'est tout. Si après notre cœur nous condamne, si on se rend compte qu'on a mal fait, ce n'est pas ça l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous montrer la sortie. C'est pas nous montrer enfoncé. C'est nous montrer voilà comment tu peux en sortir. Voilà le plan de Dieu. Voilà comment il peut agir pour toi. Alors quand on réfléchit à ce verset, il y a aussi dans les béatitudes, verset très très connu, il nous est dit Matthieu chapitre 5 et verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Si vous le mettez en rapport maintenant avec quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui est pur. Ça veut dire que si vous voulez vivre votre expérience avec Dieu, une expérience spirituelle où vous voyez Dieu se manifester, seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu face à face un jour. Vous le réalisez ça? C'est la condition. Donc ce verset à nouveau, il dit seulement ceux qui ont le cœur pur peuvent voir Dieu. Ceux qui auront le cœur purifié par la foi pourront un jour voir Dieu. Et en même temps, pour nous, ça nous parle de si vous vous purifiez, vous pouvez voir Dieu davantage dans votre vie. Vous pouvez voir plus de lui. Comment ça se fait que, justement, certains hommes ou femmes de Dieu vivent des choses extraordinaires, des miracles, des prodiges, des visions, tout ça. Et c'est pas seulement une question que Dieu en a choisi quelques-uns. C'est qu'ils ont adopté un style de vie. Ils vivent avec lui. Et il y a aussi un certain nombre de choses qu'ils ont choisies. Ils ont enlevé des choses de leur vie. C'est nécessaire. Des fois, des choses qui peuvent être légitimes, mais qui ne font que encombrer la vie. On verra plus tard. Mais d'abord, il y a cet appel à la pureté. Dans Matthieu, si vous êtes dans le Matthieu 5, Matthieu 3 n'est pas loin. Jean-Baptiste disait aux gens qui venaient à lui, « Moi, je vous baptise d'eau, verset 11, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Vous avez entendu ? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Des fois, le Saint-Esprit est comme un feu. Mais ici, les choses sont séparées. Pourquoi il aurait dit ça? Saint-Esprit et feu. Parce que pour certains, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour d'autres, c'est le baptême du feu. Et ici, le baptême du feu, ce n'est pas celui que nous cherchons. Parce que des fois, on dit, on aimerait le feu de Dieu en nous. Mais ici, ce feu est un feu destructeur. Parce que, il suffit de lire la suite, le verset nous dit, il a son vent à la main, une espèce de balai si vous voulez, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. D'accord? Donc, à vous de choisir, vous êtes blé ou paille. Donc, le blé, c'est pour aller dans le grenier de Dieu, mais la paille, c'est pour la destruction. C'est clair, c'est pas autre chose. Ce feu-là est un feu de destruction. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas dire « Seigneur, consume-moi ». Nous voulons avoir le feu de Dieu en nous dans le sens de la puissance de l'esprit, l'enthousiasme et tout ce que ça peut apporter. Le feu est une bonne chose. On se réchauffe, on peut cuire les aliments, on peut s'éclairer. Il y a plein de choses positives. Mais en même temps, on se rend compte aussi que dans certaines circonstances, c'est en vue de la destruction. Donc, le feu peut apporter, on peut dire, un jugement. Le fait que le Seigneur vienne de cette façon, c'est une année de jugement. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous sommes dans un temps pour discerner que maintenant vient un temps de jugement. Jugez-vous vous-même pour n'être pas condamné avec le monde. On est dans un temps de jugement. On recherche, on dit « Seigneur, oui, donne le baptême du Saint-Esprit à ceux qui n'ont pas encore eu. Renouvelle dans le Saint-Esprit ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire nous tous. » Mais en même temps, on se rend compte que quand on appelle ces choses, on appelle en même temps un jugement. Il y a un tri qui se fait. Ceux qui en voudront et ceux qui n'en voudront pas. Ceux qui n'en veulent pas, c'est en général parce qu'ils veulent rester cachés dans les ténèbres. Le feu est clair. Et les ténèbres, on veut rester cachés. On veut continuer avec certaines choses. Mais ces choses doivent être consumées, détruites. Alors si nous, on est collés à ces choses, on risque d'être détruit avec elles. Et on peut être, pour certains, alors sauvé comme au travers du feu. Mais on arrivera tout nu, avec rien du tout. Alors qu'au contraire, le Seigneur nous invite à venir avec à lui en apportant les choses qu'il a déposées en nous. Les dons et talents. Il dit, voilà, tu m'as donné tout ça. Ben, j'ai fait produire et ça a multiplié. Je crois que c'est l'année, ça a peut-être déjà commencé l'année dernière, peut-être ça va continuer, mais pour nous, c'est un message de Dieu. Il vient nettoyer son air, son endroit pour que ce soit un endroit agréable à vivre. Moi, j'ai travaillé un moment dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un grenier à grains et à blé. Et je vous assure que c'était très sale, avec plein de poussière. Et il y a aussi des petits rongeurs hein, dans ces endroits qui sont attirés. Et donc, moi, je peux me faire une image de ce que ça veut dire nettoyer son air. Parce que l'air, on a besoin. On comprend aussi dans l'histoire des hommes pourquoi cette fascination des Égyptiens pour les chats. Ben, quand vous avez des greniers de céréales, on a besoin de cet animal pour faire face à toutes ces invasions de rongeurs. Mais donc l'important, c'est qu'on puisse réaliser que le Seigneur ne vient pas pour détruire. Il vient pour nettoyer, nous purifier. Parce que si l'homme venait dans sa condition naturelle, il serait consumé. Notre Dieu est un feu dévorant. Il s'est souvent manifesté sous cette forme de feu. Le buisson ardent et d'autres exemples de la Bible, le feu qui tombe sur l'autel de Élie, sur le mont Carmel. Il y a des manifestations de feu. Et donc, il faut que nous comprenions qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ce feu. Donc, que ce soit un feu de l'esprit en nous, et puis un feu qui détruit et qui consume tout ce qui, de toute manière, va nous empêcher de recevoir le meilleur de Dieu. Nous sommes dans une période où, dans Éphésiens chapitre 1, on voit que Paul prie pour les Éphésiens que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, on parle de la gloire, ici c'est comme un attribut, on insiste sur cet aspect, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça, c'est ma prière pour vous aussi. Cet esprit de sagesse et de révélation. Révélation, ça veut dire quoi? Quelque chose qui était caché, tout à coup est révélé. On peut dire que c'est un esprit qui permet de voir des choses qui étaient cachées. On peut pénétrer avec nos yeux maintenant dans le monde des esprits, le monde invisible, et voir des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Moi, je suis persuadé encore. Ces choses ne se passent pas sur un claquement de doigts comme ça. Je m'occupe de mes affaires, je pense pas à Dieu, etc. Et tout à coup, il se produit des fois des visions, il se produit des fois ce qu'on appelle des visitations de Dieu, parce qu'il est souverain, il peut le faire. Mais d'une manière générale, n'est-ce pas vrai que Dieu aimerait qu'il y ait ce rapprochement de nous qui désirons toujours plus entendre lui, et pas lui qui fait irruption dans notre vie. Vous le croyez ça? Alors que nous prions cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, régulièrement et de plus en plus, nous commençons à concevoir les choses autrement. Et les gens disent des fois, je comprends rien, je lis la Bible, ça ne me parle pas, etc. Ça demande une exposition à la parole de Dieu et ça demande aussi une action du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. Vous vous rappelez des disciples de Emmaüs, on les appelle comme ça parce qu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils parlaient avec Jésus et discutaient, etc. Et il nous a dit, ils ne comprenaient rien, il y avait un feu qui était en eux, mais ils ne comprenaient rien, c'est comme si leurs yeux étaient aveuglés, et c'est au moment où le Seigneur a rompu le pain, il nous a dit, il y a comme des écailles qui sont tombées de leurs yeux, et tout à coup ils ont réalisé. Donc que ces écailles tombent, alors que certains font la lecture de la Bible, et que tout à coup ça devient une lecture passionnante, où chaque parole s'illumine et qui est comme des lettres qui viennent vers vous, parce que c'est une parole vivante. Donc on a vu que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Et j'ai mis un peu sur le même plan la sainteté et la pureté, ça va ensemble, hein, parce que vous avez aussi le passage dans Hébreux, que vous connaissez peut-être, chapitre 12 et verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce passage dit encore une fois exactement la même chose. Si vous prenez deux pages avant, dans Hébreux 10, il nous est dit que Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Tout le monde dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Par l'offrande du corps de Jésus. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. De la part de l'homme, il n'y a rien à y rajouter. Vous ne pouvez pas vous sanctifier dans le sens que vous êtes un peu saint et alors vous allez être un peu plus saint. Vous ne pouvez pas. C'est en vertu de l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Mais dans la même épître, il est dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors ça nous parle de que premièrement, sans la sanctification par l'offrande de Jésus, il n'y a pas de salut. Mais en même temps, sans vivre cette séparation d'avec Dieu, moi je le dis autrement maintenant, vous ne verrez pas Dieu se manifester. Vous ne verrez rien de l'action du Seigneur. Vous allez toujours vivre au rabais. La sainteté, la pureté sont des appels pour maintenant. Nous sommes des personnes qui pourront discerner le temps dans lequel nous sommes et nous sommes appelés à ça. J'aimerais qu'on prenne encore une fois Matthieu 21. J'en ai parlé, j'ai dit encore une fois parce que je l'ai cité simplement. Mais que nous puissions comprendre que Jésus est en train de vouloir nettoyer son air. Et j'ai parlé des vendeurs du temple. Verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Ils étaient indignés des choses merveilleuses. Eux ne faisaient jamais de choses merveilleuses. Il ne se passait pas grand-chose dans ce temple. C'était juste la foire. Il y avait des choses à voir, il y avait tout un trafic, il y avait beaucoup de choses, mais il ne se passait pas de choses merveilleuses. Jésus en a fait des choses merveilleuses. Les enfants criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ?» Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Jésus est entré dans le temple. Il est aussi entré dans le temple que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. il veut nettoyer ce temple. Il veut que ce temple que nous sommes, dites « Je suis le temple du Saint-Esprit », que ce temple devienne une maison de prière. Vous le réalisez ça? Quand vous aurez restauré Jésus à sa place dans le temple et que votre temple sera devenu une maison de prière, il va se passer des choses merveilleuses. Et quand il se passera des choses merveilleuses, alors ce temple deviendra aussi un endroit où il y aura des louanges. Donc la maison de Dieu devient une maison de prière, ensuite elle devient une maison de puissance, et puis ça devient une maison de louanges. Voilà le fil conducteur de Jésus pour votre vie. Une maison de prière où il est à sa place, où c'est nettoyé, on enlève les choses inutiles. Quelles sont ces choses inutiles? C'est précisé les sièges des vendeurs de pigeons. Pourquoi cette précision des pigeons? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans, les pigeons? C'est parce que dans l'Ancien Testament, tout était décrit. Qu'est-ce qu'il fallait apporter pour tel type de sacrifice, sacrifice de culpabilité, etc. Mais il était écrit aussi que si vous êtes pauvre et que vous ne pouvez pas vous payer, par exemple, un bœuf en sacrifice de culpabilité ou d'autres choses, vous pouvez le remplacer par un pigeon. Donc il était beaucoup plus pratique finalement de réduire tout le culte à un trafic de pigeons. Ça coûtait moins cher et ça coûtait donc peu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Parce que c'est des gens qui ne veulent pas honorer Dieu avec les prémices de leurs revenus. Parce que c'est notre vie que nous donnons quand nous donnons des dîmes, des offrandes. Mais on lui donne un petit pourboire. On donne une petite pièce. C'est ça l'idée. Et donc, ici, il y a eu tout un changement. Le culte n'était plus un culte à la gloire de Dieu. Tout était que trafic. Tout n'était que saleté. Et il fallait nettoyer. Vous savez, les pigeons, ça salit aussi. Hein. On en sait quelque chose dans nos villes, dans les places et ailleurs. Et donc, tout n'était que sale. Et Jésus est venu pour nettoyer. Donc, il y a aussi des choses qui se passent dans notre religion chrétienne, où il y a besoin d'un nettoyage. Parce que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de puissance et pas la louange. Parce que la maison n'est pas nettoyée et que ce n'est pas une maison de prière. Donc on est appelé à ça. C'est un merveilleux appel de Dieu pour nous. Un appel à la pureté. Et je termine par la fin. Apocalypse 22. Au verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. » Dans un sens, c'est un petit peu une provocation, disant, si c'est ça le style de vie que vous avez choisi, vivre dans le compromis, dans la saleté, alors continuez comme ça. Continuez l'injustice, continuez de vous souiller, mais pour d'autres, que le juste pratique encore la justice. Que le juste ne continue pas dans un compromis en disant « moi je suis quand même un peu juste ». Non, le juste veut devenir de plus en plus juste, parce qu'il aime vivre dans la justice de Dieu. Et donc, il aime pratiquer la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le raisonnement humain, c'est « s'il est saint, c'est bien ». Et vous savez ce qu'ils disent les gens? Ils disent « mais je ne suis pas plus mauvais qu'un autre ». Et je suis quand même mieux qu'un tel ou qu'un tel. On trouve toujours quelqu'un qui est pire que nous. Mais ça, ce n'est pas le raisonnement de Dieu. Parce que nous, Dieu va toujours montrer quelqu'un qui est meilleur que vous. C'est Jésus. Et dire, de toute façon, tu ne lui arrives pas à la cheville. Pourtant, malgré tout, nous sommes parfaitement aimés en lui. Donc voilà la conclusion qui est dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, c'est aussi celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et vous savez quelle grâce? On a dit pendant ce culte la grâce. La grâce surabondante. Pas un petit peu de la grâce de Dieu. La grâce surabondante du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.